Chapitre 7. Ce que c'est que les filles. Les femmes qui ont mené la vie alors si violemment répudiée par Esther arrivent à une indifférence absolue sur les formes extérieures de l'homme. Elles ressemblent aux critiques littéraires d'aujourd'hui qui, sous quelque rapport, peut leur être comparée et qui arrivent à une profonde insouciance des formules d'art. Il a tant lu d'ouvrages, il en voit tant passer, il s'est tant accoutumé aux pages écrites, il a subi tant de dénouements, il a vu tant de drames, il a tant fait d'articles sans dire ce qu'il pensait, en trahissant si souvent la cause de l'art en faveur de ses amitiés et de ses inimitiés, qu'il arrive au dégoût de toute chose et continue néanmoins à juger. Il faut un miracle pour que cet écrivain produise une œuvre, de même que l'amour pur et noble exige un autre miracle pour éclore dans le cœur d'une courtisane. Le ton et les manières de ce prêtre, qui semblait échapper d'une toile de Zurbaran, parurent si hostiles à cette pauvre fille, à qui la forme importait peu, qu'elle se crut moins l'objet d'une sollicitude que le sujet nécessaire d'un plan. Sans pouvoir distinguer entre le patelinage de l'intérêt personnel et l'onction de la charité, car il faut être bien sur ses gardes pour reconnaître la fausse monnaie que donne un ami, elle se sentit comme entre les griffes d'un oiseau monstrueux et féroce qui tombait sur elle après avoir plané longtemps, et dans son effroi, elle dit ces paroles d'une voix alarmée. « Je croyais les prêtres chargés de nous consoler, et vous m'assassinez !» À ce cri de l'innocence, l'ecclésiastique laissa échapper un geste et fit une pause. Il se recueillit avant de répondre. Pendant cet instant, ces deux personnages, si singulièrement réunis, s'examinèrent à la dérobée. Le prêtre comprit la fille sans que la fille pût comprendre le prêtre. Il renonça sans doute à quelque dessein qui menaçait la pauvre Esther et revint à ses idées premières. « Nous sommes les médecins des âmes, » dit-il d'une voix douce, « et nous savons quels remèdes conviennent à leur maladie. »
« Il faut pardonner beaucoup à la misère !» dit Esther.
Elle crut s'être trompée, se coula à bas de son lit, se prosterna aux pieds de cet homme, baisa sa soutane avec une profonde humilité et releva vers lui des yeux baignés de larmes.
« Je croyais avoir beaucoup fait !» dit-elle.
« Écoutez, mon enfant, votre fatale réputation a plongé dans le deuil la famille de Lucien. » On craint, et avec quelque justesse, que vous ne l'entraîniez dans la dissipation, dans un monde de folie.
C'est vrai, c'est moi qui l'avais amené au bal pour l'intriguer.
Vous êtes assez belle pour qu'il veuille triompher en vous aux yeux du monde, vous montrer avec orgueil et faire de vous comme un cheval de parade. S'il ne dépensait que son argent. Mais il dépensera son temps, sa force. Il perdra le goût des belles destinées qu'on veut lui faire. Au lieu d'être un jour ambassadeur, riche, admiré, glorieux, il aura été, comme tant de ces gens débauchés qui ont noyé leur talent dans la boue de Paris, l'amant d'une femme impure. Quant à vous, vous auriez repris plus tard votre première vie, après être un moment monté dans une sphère élégante, car vous n'avez point en vous cette force que donne une bonne éducation pour résister aux vices et penser à l'avenir. Vous n'auriez pas mieux rompu avec vos compagnes que vous n'avez rompu avec les gens qui vous ont fait honte à l'opéra ce matin. Les vrais amis de Lucien, alarmés de l'amour que vous lui inspirez, ont suivi ses pas, ont tout appris. Plein d'épouvante, ils m'ont envoyé vers vous pour sonder vos dispositions et décider de votre sort. Mais s'ils sont assez puissants pour débarrasser la voix de ce jeune homme d'une pierre d'achoppement, ils sont miséricordieux. « Sachez-le, ma fille, une personne aimée de Lucien a des droits à le respect, comme un vrai chrétien adore la fange où, par hasard, rayonne la lumière divine. Je suis venue pour être l'organe de la pensée bienfaisante. Mais si je vous eusse trouvée entièrement perverse et armée d'effronteries, d'astuces, corrompue jusqu'à la moelle, sourde à la voix du repentir, je vous eusse abandonnée à leur colère. » Cette libération civile et politique, si difficile à obtenir, que la police a raison de tant retarder dans l'intérêt de la société même, et que je vous ai entendu souhaiter avec l'ardeur des vrais repentirs, la voici, dit le prêtre en tirant de sa ceinture un papier de forme administrative. On vous a vu hier, cette lettre d'avis est datée d'aujourd'hui. Vous voyez combien sont puissants les gens que Lucien intéresse. À la vue de ce papier, les tremblements convulsifs que cause un bonheur inespéré agitèrent si ingénument Esther qu'elle eut sur les lèvres un sourire fixe qui ressemblait à celui des insensés. Le prêtre s'arrêta, regarda cet enfant pour voir si, privée de l'horrible force que les gens corrompus tirent de leur corruption même, et revenue à sa frêle et délicate nature primitive, elle résisterait à tant d'impressions. Courtisane trompeuse, Esther eût joué la comédie. Mais, redevenue innocente et vraie, elle pouvait mourir, comme un aveugle opéré peut reperdre la vue en se trouvant frappé par un jour trop vif. Cet homme vit donc en ce moment la nature humaine à fond, mais il resta dans un calme terrible par sa fixité. C'était une Alpe froide, blanche et voisine du ciel, inaltérable et sourcilleuse, au flanc de granit et cependant bienfaisante. Les filles sont des êtres essentiellement mobiles qui passent sans raison de la défiance la plus hébétée à une confiance absolue. Elles sont sous ce rapport au-dessous de l'animal, extrêmes en tout, dans leur joie, dans leur désespoir, dans leur religion, dans leur irréligion, presque toutes deviendraient folles si la mortalité qui leur est particulière ne les décimait et si d'heureux hasards n'élevaient quelques-unes d'entre elles au-dessus de la fange où elles vivent. Pour pénétrer jusqu'au fond des misères de cette horrible vie, il faudrait avoir vu jusqu'où la créature peut aller dans la folie sans y rester, en admirant la violente extase de la torpille aux genoux de ce prêtre. La pauvre fille regardait le papier libérateur dans une expression que Dante a oubliée et qui surpassait les inventions de son enfer. Mais la réaction vint avec les larmes. Esther se releva, jeta ses bras autour du cou de cet homme, pencha la tête sur son sein, y versa des pleurs, baisa la rude étoffe qui couvrait ce cœur d'acier et sembla vouloir y pénétrer. Elle saisit cet homme, lui couvrit les mains de baisers. Elle employa, mais dans une sainte effusion de reconnaissance, les chatteries de ses caresses, lui prodigua les noms les plus doux, lui dit, au travers de ses phrases sucrées, mille et mille fois, « Donnez-le-moi !» avec autant d'intonations différentes. Elle l'enveloppa de ses tendresses, le couvrit de ses regards avec une rapidité qui le saisit sans défense. Enfin, elle finit par engourdir sa colère. Le prêtre connut comment cette fille avait mérité son surnom. Il comprit combien il était difficile de résister à cette charmante créature. Il devina tout à coup l'amour de Lucien et ce qui devait avoir séduit le poète. Une passion semblable cache, entre mille attraits, un hameçon lancéolé qui pique surtout l'âme élevée des artistes. Ces passions, inexplicables pour la foule, sont parfaitement expliquées par cette soif du beau idéal qui distingue les êtres créateurs. N'est-ce pas ressembler un peu aux anges chargés de ramener les coupables à des sentiments meilleurs? N'est-ce pas créer que de purifier un pareil être? Quel allèchement que de mettre d'accord la beauté morale et la beauté physique! Quelle jouissance d'orgueil si l'on réussit! Quelle belle tâche que celle qui n'a d'autre instrument que l'amour! Ces alliances, illustrées d'ailleurs par l'exemple d'Aristote, de Socrate, de Platon, d'Alcibiade, de Cétégus, de Pompée, et si monstrueuses aux yeux du vulgaire, sont fondées sur le sentiment qui a porté Louis XIV à bâtir Versailles, qui jette les hommes dans toutes les entreprises ruineuses, convertir les miasmes d'un marais en un monceau de parfums entouré d'eau vive, mettre un lac sur une colline, comme fit le prince de Conti à Nointel, ou les vues de la Suisse à Cassan, comme le fermier général Bergeret. Enfin, c'est l'art qui fait irruption dans la morale. Le prêtre, honteux d'avoir cédé à cette tendresse, repoussa vivement Esther, qui s'assit honteuse aussi, car il lui dit « Vous êtes toujours courtisane !» Et il remit froidement la lettre dans sa ceinture. Comme un enfant qui n'a qu'un désir en tête, Esther ne cessa de regarder l'endroit de la ceinture où était le papier.